les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous sommes en France, à Montmartre aujourd'hui, au cœur de Paris, à l'occasion de la sortie du roman du Suisse Mathieu Mechevant sur Toulouse-Lautrec. Entretien en déambulation sur les traces de cet artiste pas comme les autres. Nous allons vous raconter sa vie en retournant sur les lieux qu'il a fréquentés ici à Montmartre avant de mourir très jeune à l'âge de 36 ans. Nous irons aussi du côté du Moulin Rouge et du Moulin de la Galette qui ont d'une certaine façon révélé Lautrec. La Québécoise Diane Tell nous y rejoindra. L'artiste qui vit désormais dans un petit village de la montagne suisse sort un nouvel album. Elle jouera un titre à la guitare in situ, un moment à ne pas manquer. Nous reviendrons aussi sur le prix Goncourt des lycéens et sur le prix Interallié avec Karine Tuile. Et puis vous entendrez les coups de gueule des libraires avec un florilège sélectionné parmi leurs interventions depuis la rentrée.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et en raison d'un mouvement de grève à Radio France, mais aussi plus largement en France, avec une grande mobilisation sociale, cette émission n'a pas pu être réalisée dans les conditions prévues. Vous retrouverez le Belge Jean-Philippe Toussaint, le Français Philippe Delerme et nos libraires en multiplex la semaine prochaine. La librairie francophone est cependant solidaire de nos collègues français de Radio France qui défendent la qualité du service public. Et bonjour Mathieu Mechevant.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ici à Montmartre. C'est au 104 boulevard de Clichy où nous sommes très exactement qu'en 1886, dans l'atelier de Fernand Cormon, un petit homme fête l'arrivée d'un grand rouquin. Le petit homme, c'est Toulouse-Lautrec et le grand rouquin, c'est Vincent Van Gogh.
Oui, tout à fait. C'est là où les deux hommes se rencontrent pour la première fois. Ils suivent des cours comme beaucoup de gens à cette période. Beaucoup de gens sont passés par l'atelier de Cormon, dont il ne reste d'ailleurs pas grand-chose du point de vue de la peinture. Enfin, il y a un grand tableau au musée d'Orsay. Mais enfin voilà, Toulouse-Lautrec et Van Gogh sont plus restés d'actualité. C'est là qu'ils se rencontrent et c'est là qu'ils fourbissent leurs armes classiques, on va dire.
Alors, on est juste en face, il y a les deux ânes, un théâtre qui existe aujourd'hui, un bar qui s'appelle le Sanglier Bleu, et puis une pizzeria, et le 104 est au milieu. Donc l'atelier a disparu ou il y a encore des vestiges?
À vrai dire, j'ignore si à l'intérieur ils ont laissé des traces ou pas, puisque je ne suis que passé devant, comme vous.
On va essayer de voir si on peut entrer, parce qu'il y a une grille grisâtre. On va essayer de traverser. Hop. Alors il y a une entrée assez moderne avec des éclairages. Dernier cri, des boîtes aux lettres, des immeubles tout à fait récents. À mon avis, la place a été prise.
Oui, je pense qu'il ne reste plus grand-chose de cet atelier, comme il ne reste plus grand-chose du Montmartre de Lautrec en général. Hein. C'est ce qu'on risque de voir, même le Moulin Rouge qui est à 50 mètres devant nous.
Juste à côté,
oui. Ouais, là aussi, enfin, tout a évidemment totalement changé depuis la fin du 19e siècle.
Bon, on va y aller au Moulin Rouge. Avant cela, Mathieu Mechevant, rappelez que vous êtes un jeune auteur suisse. Vous publiez donc Lautrec chez Flammarion. C'est le deuxième volet d'une trilogie qui raconte la vie de trois artistes incandescents. Le prochain sera sur Mozart. En quoi est-il incandescent, Toulouse-Lautrec ?
Il est incandescent parce que toute sa vie est incandescente, comme le premier Roger Gilbert Lecomte dans un autre domaine, le poète donc, qui est le premier tome de cette trilogie, portait une incandescence très forte. Toulouse-Lautrec, il y a une véritable puissance et volonté créatrice qui s'accompagne d'une destruction personnelle.
La destruction personnelle, il va en être question parce que justement on arrive place Blanche, Mathieu, où Lautrec entraîne Van Gogh pour boire des bocs de rhum, c'est ce que vous racontez dans le roman, manger de la blanquette avec beaucoup de sauce. En fait, Lautrec, c'est un goinfre.
Ah oui, c'est un goinfre, c'est ce qu'on appellerait un bon vivant, c'est quelqu'un qui boit beaucoup, qui mange beaucoup, mais les deux artistes se sont beaucoup influencés, j'imagine à titre personnel, ça c'est un peu difficile à savoir, mais on le voit bien puisqu'ils ont été proches, mais également dans le style, par exemple, le portrait que Lautrec fait de Van Gogh, il y a clairement une influence picturale de Van Gogh, on voit dans le trait que ça pourrait presque être un autoportrait de Van Gogh.
Van Gogh va découvrir d'ailleurs l'art de Lautrec à un moment où il est dans un restaurant, comme on est ici, là juste en face, alors là c'est un pub irlandais, mais c'était ce genre de restaurant exactement à cet endroit-là où Toulouse-Lautrec et Van Gogh allaient s'empiffrer et à un moment Van Gogh va aux toilettes, il revient, il voit Lautrec en train de dessiner et il est captivé par ce qu'il fait. Alors Van Gogh se donne la mort, Lautrec est dévasté, il se saoule, continue à s'empiffrer de tartines de foie gras et puis il se ressaisit. Il oublie le chat noir, il oublie le moulin de la galette où nous allons aller tout à l'heure, il oublie l'Élysée-Montmartre pour un tout nouveau lieu qui vient d'ouvrir, c'est le Moulin Rouge.
Oui, tout à fait. Le Moulin Rouge, c'est une création de toute pièce de quelqu'un qui s'appelle Zidler, le patron, qui va réussir, ce Zidler, à ramener les danseuses des autres cabarets et qui va un petit peu les éclipser. Et Lautrec va, évidemment, comme c'est un octambule de Montmartre, fréquenter beaucoup, beaucoup le Moulin Rouge, au point d'en être lui aussi une figure incontournable. Et là, il va éclore à ses propres yeux et aux yeux du public aussi, puisqu'on va notamment lui demander de faire la publicité du Moulin Rouge. Ouais. Et il va créer une affiche totalement révolutionnaire, voilà, pour l'époque. Sans doute l'affiche et le tableau de Lautrec le plus connu qui est cette publicité pour le Moulin Rouge.
C'est un grand succès. On est devant le Moulin Rouge avec ce mot « féerie » qui clignote devant nous. Vous le connaissez tous, ce mot-là. Et puis, des grands pots de fleurs rouges devant. On prépare les fêtes de fin d'année ici au Moulin Rouge. On va juste entrer juste là, juste à l'entrée là. Alors, c'est un grand succès. C'est la gloire pour Toulouse-Lautrec. Tout le monde va le solliciter pour des affiches, des dessins, pour les journaux, pour la publicité. Et il accepte toutes les commandes.
Oui, alors c'est un boulimique, hein, comme pour la nourriture, comme pour l'alcool, comme pour les femmes, pour le travail également. Il peint énormément, il va faire des milliers de gravures, si on les compte toutes, de dessins, etc. Et il accepte des commandes qui sont extrêmement, entre guillemets, glorieuses, comme cette affiche du Moulin Rouge, mais aussi des petites publicités, des petites illustrations, mais tout ça... Comme c'est un aristocrate, si vous voulez, ça lui est égal. Lui, il fait ce qu'il a envie de faire, il a une liberté totale, que ce soit vis-à-vis de ses modèles, vis-à-vis de ses commandes, etc. Et effectivement, cette affiche du Moulin Rouge va véritablement le révéler aux yeux du monde. Ouais.
Il remarque une danseuse ici même. Nous sommes dans l'entrée du Moulin Rouge sur le tapis rouge, donc je suppose qu'il est passé par là, et la danseuse aussi, c'est Jeanne Avril.
Oui, alors Jeanne Avril, c'est effectivement un modèle particulier parce qu'elle succède pour Lautrec à la Goulue, qui était cette figure très forte, que ce soit au sens propre, figurée, et voilà, qui rayonnait. Jeanne Avril, elle, est une véritable danseuse, d'abord, contrairement aux autres qui font du quadrille et avec des danses plus lestes, disons, qui détonnent dans ce milieu de la fête et de la nuit. Et Lautrec va tomber amoureux de cette femme, d'abord comme modèle, puis de cette femme en tant que personne.
On va sortir du Moulin Rouge. Et justement, dans la rue, sur ce trottoir, il y a un événement terrible qui se passe pour Toulouse-Lautrec. Il y a un homme ivre juste derrière lui. Il va sur les hauteurs du quartier, vers la butte Montmartre, et quelqu'un le prend pour un phénomène de foire. Ça le bouleverse, et c'est peut-être la moquerie de trop, ça.
Oui, si c'était un bon vivant, quelqu'un d'ailleurs d'extrêmement joyeux, de généreux, parce qu'il était riche,
et qui faisait famille très noble.
Hein. Ouais, tout
il
à
a
fait.
Pas besoin de travailler d'ailleurs.
Ah, non. Donc il vit la bohème montmartroise, mais contrairement à ses collègues peintres, il a pas de problème de fin de mois puisque sa famille lui envoie de l'argent. Mais là, ce que j'ai voulu mettre dans cette scène où il est moqué, c'est que malgré le fait qu'il soit invité justement au Moulin Rouge pour fêter un tableau qu'on lui a acheté, etc., enfin qui semble parfaitement reconnu, il reste ce petit homme à peine 1m50, tout difforme et qui peut être moqué comme un phénomène de cirque en fait.
Oui, c'est ça, il a une maladie génétique qui est due à la consanguinité de ses parents.
Oui, exactement, ses deux parents sont cousins germains. Et donc même si on ignore exactement l'origine à l'époque de ses problèmes physiques, il se brise les deux jambes quand il est jeune adolescent, sa croissance s'arrête, et puis il a également un visage extrêmement particulier, on va dire.
Alors il va s'enivrer, il va essayer d'oublier avec l'alcool, avec la nourriture aussi, c'est ce qui va le tuer d'ailleurs en grande partie, Mathieu Mègevant. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que juste derrière le Moulin Rouge, il y a la maison de Jacques Prévert, et quand on est sur la terrasse de la maison de Prévert, on voit l'hélice du Moulin Rouge qui est en train de tourner là juste face à nous, illuminée évidemment de rouge. Bon, on va quitter ce Moulin Rouge pour nous diriger vers l'atelier, l'ancien atelier de Toulouse-Lautrec, dans la rue Tourlac. On va aller dans cette rue, se trouve d'ailleurs la maison de Van Gogh à proximité. Le temps de nous déplacer. Voici le nouveau titre d'Alain Souchon dans la librairie francophone, entièrement en extérieur, aujourd'hui à Paris-Montmartre.
À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face, elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levé, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est prêt. presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face.
C'était Alain Souchon avec Presque dans la librairie francophone. Et on est de retour à Montmartre, en France, à Paris, pour cette émission autour de Toulouse-Lautrec et du livre du Suisse Mathieu Mègevant sur Lautrec, paru aux éditions Flammarion.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Voilà, Mathieu Mègevant, on arrive en haut de la rue Le Pic, un lieu emblématique aussi pour Toulouse-Lautrec. On est vraiment sur les pas de Lautrec, là, hein. Ce sont des rues qu'il a empruntées lui-même.
Ah oui, tout à fait, même si je pense qu'il n'aurait pas reconnu grand-chose de ce qu'on voit là actuellement, puisque tout a changé, surtout le haut de Montmartre, qui était encore extrêmement champêtre et pas du tout urbain comme maintenant. À l'époque où lui il y était, il y
avait encore les voitures, hein, voilà, qui sont là tout autour de nous,
alors qu'évidemment c'était pas le cas des voitures, mais même il y avait encore des petites bâtisses sur les hauts, il y avait même des chèvres qui broutaient. Enfin, c'est vraiment un Montmartre qui a disparu aujourd'hui.
Alors on va arriver devant la maison Van Gogh, car la rue Tourlac où se situait l'atelier de Toulouse-Lautrec, eh bien, elle est à côté de la maison Van Gogh. Ils ne se sont jamais quittés, ces deux-là.
Oui, jusqu'à ce que Van Gogh quitte Paris et puis quitte le monde.
Eh oui.
C'est ce quartier qui voulait ça, où il y avait une émulation commune de tous les peintres.
Le bateau Lavoir, qui n'est pas très loin.
Exactement.
Aux Abbesses.
Voilà, tous les artistes se côtoyaient dans les cafés, les ateliers. Enfin, c'était un microcosme qui commençait à émerger à cette époque de Lautrec, d'ailleurs.
Attention, là, deux chevaux, là. On remonte un peu le temps,
exact,
quand même.
Un peu d'époque.
Un peu d'époque, presque. Parfait, presque. Mais... Voilà la plaque devant ce 54 rue Le Pic. Avec, dans cette maison, Vincent Van Gogh a vécu chez son frère Théo de 1886 à 1888.
Ouais, c'est ce frère Théo, donc tout le monde sait que c'est lui qui donc soutenait le travail de Van Gogh. Ensuite, c'est d'ailleurs un galeriste qui a exposé Lautrec, qui a repris la galerie de Théo quand celui-ci est mort, parce que Théo est mort d'ailleurs juste après Vincent. Et donc il y a vraiment une intimité entre Van Gogh, les Van Gogh et l'histoire de Toulouse-Lautrec.
Bon, on va aller du côté de son atelier, on va monter encore un petit peu et on va arriver dans cette rue Tourlaque. On dit que son atelier est rempli d'objets, Mathieu Méchevan. Des toiles, des perruques, des chapeaux, des kimonos. Il y a plein de choses, il ramasse plein de choses, Toulouse-Lautrec.
Oui, il était gourmand, boulimique dans tout, et son atelier était manifestement, il reste quelques photos qu'on peut encore retrouver, un foutoir total dans lequel il amassait tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qui lui plaisait, et puis bien sûr tout son travail. C'était rempli de tableaux en cours ou finis, et l'atelier est très beau, en tout cas celui qu'on peut voir sur les photos et qui est représenté dans certaines peintures d'ailleurs.
Ah, plein d'enfants parce qu'on passe devant une école maternelle. On intrigue tout le monde d'ailleurs. C'est une toute petite rue, hein.
Ouais.
Très courte. Voilà, on est dans l'endroit où vivait Toulouse-Lautrec, dans cet atelier. Un atelier rempli d'alcool aussi, Mathieu Méchevan. Il avait sa réserve d'alcool et il se levait très tard. Ce qui agaçait profondément Van Gogh, parce que quand il le réveillait en début d'après-midi, il lui disait « Mais non, c'est pas possible, cette perte de temps et cette perte d'argent. »
Oui, alors... perte de temps aux yeux de Van Gogh, qui sentait toute l'urgence sans doute, voilà, de la vie créatrice et du terme qui s'approchait pour lui. Mais évidemment, il se levait tard parce qu'il se couchait aux aurores avec cette vie qu'il menait, Lautrec, c'est-à-dire au Moulin Rouge, Moulin de la Galette, enfin dans tous les bals, les cabarets du quartier qu'on a un petit peu parcouru. C'était une vie décalée et quant à l'alcool, il y en avait chez lui et il y en avait tout le temps.
Bon, il y a des libraires, Mathieu Méchevan, dans cette émission, vous le savez. Oui. Deux libraires en Belgique et au Canada, ne dites pas oui, comme ça va bien se passer. Ils ont lu votre livre, Mathieu. Je vous propose de les appeler, puisqu'on est à Montmartre. On va les appeler pour connaître leur avis. Vous êtes d'accord?
Mais bien sûr.
Alors, depuis Montmartre à Paris, on est en connexion avec le Canada. On va appeler Josiane Nétourneau à Montréal. Allô, Josiane? Bonjour Josiane, nous sommes à Montmartre avec Mathieu Méchevan. Vous avez lu son livre, Mathieu, il hallucine complètement.
Ben, j'avoue, je suis partagée dans ma lecture du roman de Mathieu Méchevan. Entre la fascination, une sensation, je dirais, de trop plein. Autant j'ai trouvé une truculence, une générosité dans son écriture, beaucoup de descriptions savoureuses et de scènes formidablement dépeintes, autant certains dialogues m'ont semblé répétitifs. En fait, ce livre passe parfois de l'ivresse séduisante à l'excès, et ce flottement éthylique m'a, à certains moments, fait perdre un peu pied.
Il y a beaucoup d'excès dans votre livre, Mathieu, c'est vrai.
Ah, c'est indéniable, mais si le personnage a déteint dans l'écriture et dans le texte, moi je le prends plutôt comme un compliment, à vrai dire.
Bon, merci beaucoup Josiane, on va vous laisser à Montréal.
D'accord.
À bientôt, à bientôt, merci beaucoup, au revoir. Allez, on appelle Nathalie Clairin, qui est votre collègue en Belgique, qui est libraire dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe.
Allô.
Allô Nathalie ?
Oui.
Bonjour Nathalie, c'est Emmanuel Queyrade, je suis avec Mathieu Méchevan à Montmartre. Quel avis portez-vous sur son livre alors ?
Alors, le livre de Mathieu Méchevan, pour moi, il est excellent. Donc il est magnifiquement bien mis en scène, aussi voyant que voyeur, amoureux que glouton, éperdu que dépravé, un personnage aussi créatif que destructeur. Alors je n'ai pas perdu une miette de ce foisonnement de détails quant à Montmartre aussi et la Belle Époque, qui nous sont décrites avec une richesse exceptionnelle, comme si on y était. Et l'écriture, pareil, écriture avec une palette sémantique énorme, et je le souligne, des paroles authentiques de Lautrec. Donc pour moi, c'est un portrait absolument sublime.
Voilà Mathieu, l'avis de libraire. Merci beaucoup Nathalie, à bientôt.
Avec plaisir.
On va continuer notre balade dans Montmartre, puisque vous dites que ce livre représente bien l'atmosphère de Montmartre. Et c'est vrai Mathieu Méchevan, on est vraiment dans l'ambiance et dans l'époque de Lautrec.
Oui, c'était très important pour moi. Il y a un gros travail évidemment de recherche, de documentation pour le personnage, mais aussi pour l'époque, pour ce milieu, pour ce lieu et pour cette période. Et aussi sans doute, que ce soit pour le personnage Lautrec qui est connu seulement superficiellement, la même chose pour Montmartre et pour cette époque qui est devenue un petit peu cliché aujourd'hui. Et voilà, le Moulin Rouge, c'est ce que tous les Américains en passage à Paris vont voir et achètent un pins. Moi, je voulais un petit peu déconstruire ce cliché-là et essayer de saisir ce qu'était ce Montmartre à la fin du 19e siècle.
Alors on le disait, il fréquente les cabarets, le Mirliton, l'Élysée Montmartre où il y croque les femmes en train de danser, et puis le Moulin de la Galette. On va se diriger vers le Moulin de la Galette, Mathieu Méchevan, à droite ici, pour prendre une rue qui va nous y emmener pour la librairie francophone spéciale ici donc à Paris, à Toulouse-Lautrec, qui va avoir un éclair de génie au Moulin de la Galette. Nous nous en approchons avec un tableau qui restera dans les mémoires.
Oui, c'est un tableau magnifique qui représente le Moulin de la Galette. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il le représente alors que Renoir l'avait fait 15 ans plus tôt à peine. Et la manière dont Lautrec conçoit ce tableau et voilà, le réalise est extrêmement différente de celle de Renoir, alors que Renoir c'était déjà une révolution puisque c'était l'impressionnisme, etc. Mais Lautrec amène encore quelque chose de totalement neuf par rapport à ce lieu et surtout à l'univers pictural de l'époque.
Alors ça grimpe, hein, la butte Montmartre. On a des vues plongeantes sur Paris parce qu'il y a des petites perpendiculaires. C'est très joli, entre deux troquets, comme on dit, illuminés, éclairés d'ailleurs par les décorations de Noël. C'est vrai que c'est, ça laisse rêveur cet endroit-là.
Oui, c'est très beau encore aujourd'hui. Il y a quelque chose... au moment où Lautrec arrive à Montmartre, ça vient tout juste d'être attaché à Paris. Avant, c'était encore indépendant. Mais jusqu'à aujourd'hui, je trouve, quand on marche comme ça dans ces petites rues, on a l'impression qu'on est sorti déjà un peu de Paris, qu'on est encore dans une, cet esprit un peu de petit village que c'était alors.
C'est vrai. Voilà, on arrive devant le Moulin de la Galette et on va y rejoindre une grande artiste. Une grande chanteuse québécoise que vous connaissez, Mathieu, c'est Diane Tell.
Oui, de nom.
Alors on va vous la présenter justement. Voilà, le Moulin de la Galette, c'est un endroit magnifique. C'est devenu un restaurant aujourd'hui. Là aussi, il y a un moulin, comme pour le Moulin Rouge avec une hélice.
C'est un restaurant magnifique aujourd'hui. Ils ont restauré les choses et remis ensuite des tableaux au mur. Et c'est vraiment un endroit que je conseille, qui restitue très bien l'époque de Lautrec et cette ambiance.
Toulouse-Lautrec qui va attraper la syphilis parce qu'il fréquente les cabarets, on l'a dit, il fréquente aussi les bordels. Il va peindre beaucoup d'ailleurs dans ces bordels-là, il va se faire accepter par tout le monde. Et puis il va mourir à l'âge de 36 ans dans son sud-ouest natal, à Malromé, dans les bras de sa mère. Et tout le petit monde de Montmartre lui rendra hommage. Alors je ne sais pas si c'est romancé, ça aussi c'est vrai, parce que vous dites qu'il y a un texte qui est rédigé et qui est distribué ici. Dans tout le quartier, on distribue l'hommage à Lautrec.
Oui, c'est une invention vraiment, c'est du roman.
Ah, c'est dommage.
C'est dommage pour la postérité de Lautrec, mais pour le roman, c'était nécessaire. Encore que, comme à chaque fois, dans ce travail sur ces vies romancées, c'est d'être toujours plausible. Et ce qui est dit dans ce texte est tout à fait plausible et, à mon sens, représente très bien et dit très bien ce qu'était Lautrec, ce qu'était sa volonté d'artiste et ce qui va devenir sa postérité.
Bon, merci beaucoup Mathieu Méchevan. Lautrec est un roman-récit passionnant, il est publié chez Flammarion. Et voici Diane Tell qui nous a rejoint devant ce Moulin de la Galette. Bonjour Diane.
Bonjour.
Je vous embrasse Diane. Je vous embrasse parce que vous étiez dans la librairie francophone estivale cet été. Nous étions avec vous à la fête des vignerons en Suisse, à Vevey. Vous étiez artiste bénévole. Qu'est-ce que vous en retenez de cette affaire-là?
Oh ben, un immense moment. J'ai adoré le spectacle de Daniel et Finzi Pasca. Je l'ai vu trois fois. J'ai participé à la parade de nuit. Je suis ravie.
En coccinelle.
Ouais. Voilà, j'étais en coccinelle. Je suis ravie d'avoir posé ma candidature parce que vraiment, ça a été un moment inoubliable dans ma vie.
Et ça a surpris tout le monde de voir Diane Tell comme ça dans la parade nocturne. En coccinelle, bénévole comme tout le monde, pendant trois semaines.
Ouais, ouais. Bon, j'ai pas fait tous les soirs parce que je travaillais un peu quand même.
Oui.
Mais on s'arrangeait entre nous. On était 3-4 coccinelles pour deux costumes, donc on s'est arrangé. Mais ouais, c'était un très grand moment, et très agréable et rencontrer des gens très sympathiques. J'ai rencontré Shania Twain.
Ah oui, il y avait Shania Twain.
Oui,
carrément.
Oui. C'est drôle parce qu'on est né. Elle est de Timmins, moi de Val d'Or, donc c'est des régions très proches au Canada. Et il a fallu attendre la fête des vignerons pour se rencontrer.
Bon, vous sortez un nouvel album, Haïku. C'est un album doux et rebelle à la fois. Il y a une chanson un peu rebelle, on va en parler tout à l'heure.
D'accord, oui, avec plaisir. Ben oui, c'est un peu on est fait de ces matières-là, en fait. Hein. Il y a des heures douces et puis il y a des heures moins douces.
Bon, avant l'interview, vous allez nous jouer un extrait de cet album, Haïku, justement. On va entrer dans le Moulin de la Galette. On a une autorisation, il paraît même qu'on nous a réservé la table d'Alida.
Oh, je l'ai rencontrée. Elle était extraordinaire. Bon. C'était une femme extrêmement généreuse, en tout cas pour les jeunes, les petites jeunes qui arrivaient comme moi lorsque je l'ai rencontrée.
Bon, on va lui rendre hommage au passage.
Avec
on y va?
Plaisir.
Allons-y.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Alors, je crois que la table d'Alida est là. Il y a une table avec des personnes qui sont en train de manger. On va leur faire l'animation.
Voilà, très bien. Où est-ce qu'elle se mettait, Dalida, lorsqu'elle venait
chanter? C'est là, apparemment, parce qu'il y a une plaque sur la table.
Oui.
Dalida, ce lieu ne t'oubliera jamais.
Ouais, je vais m'asseoir face à la plaque.
Allez, ok. Voilà, Diantel, vous êtes bien installée?
Oui, je suis bien installée. J'ai Dalida dans le cœur. Avec je vous ai dans les yeux.
C'est vrai, je vous ai aussi dans les yeux. Avec cet extrait de ce nouvel album, le titre, c'est Haïku. Vous êtes à la guitare, ici, au Moulin de la Galette, Diantel.
Et vers ta chaleur, fixe le sexe de l'ange, ou lune au plafond, soleil de mes nuits, l'or dans mes rêves, drapé. De penser pour toi. Tes textes aux personnages piquent mon corps engourdi. Ma langue brûlante, flèches impudiques, insomnie départagée. Je t'envoie une photo. Ivre d'imaginer l'âme perleuse aux lèvres, l'effet que ça te fait. Fébrile au bas mot, ventre chaud, mer intérieure. Plongée libertine. À mon horizon, ta grande porte ferme, m'ouvre le feu. Lance-moi quelque chose, une rose, corde à te prendre. Étoiles à la pâte. Désir sans espoir, me tue et puisse meurt. Sois fine assouvie. Haïku.
Vous êtes magnifique. Merci, Diantel.
Merci à vous.
C'est très émouvant d'être face à vous, comme ça, de vous voir jouer. Je suis même pas à un mètre de vous. C'est une grande émotion. Cette chanson, elle est d'une grande émotion, comme votre album, comme toutes les chansons que vous avez toujours faites. D'abord, l'émotion, Diane.
Bah oui, en fait, pour ces chansons un peu douces comme ça, un peu, ce sont des tourneries. C'est vrai que l'émotion passe et tant mieux, tant mieux.
Bon, cet album, il a été enregistré entre le Québec, la France et la Suisse. Oui. C'est un album simple avec des instruments à cordes, on l'a entendu, un peu comme ça, hein. C'est vraiment quasi comme ça ce titre sur le disque. Oui. Et votre voix, comme si vous faisiez un album de jazz.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas fait de chœur, on n'a pas fait de trucs complexes. Comme on fait dans la pop, où on met des effets, on met du vocordeur, du autotune, ou je sais pas
un
quoi.
Un peu trop en ce moment, oui.
Non, on a fait, on a enregistré l'album live en studio avec la voix et les musiciens. Donc oui, c'est un album contemporain, je dirais, même un peu progressiste, mais avec un enregistrement très old school.
On ressent une forme d'hommage. Un hommage à la solitude, peut-être un peu à la mélancolie. Est-ce que c'est un état qui vous porte, Diantel, la mélancolie? Est-ce que ça vous apaise, paradoxalement?
Si j'étais un iceberg, tout ce qui est submergé serait mélancolie.
C'est vrai?
Et solitude, oui. Mais non, c'est une mélancolie, pas nécessairement joyeuse, mais une mélancolie fièrement portée.
mélancolie de la nature aussi. La nature, elle est présente sur cet album. Et vous qui vivez dans les montagnes suisses aujourd'hui, on vous sent pleinement imprégné de la nature. Alors déjà avec le Canada, évidemment. Mais c'est une forme de retraite d'être parti en Suisse, comme ça, dans un petit village?
Bah, j'ai toujours rêvé d'habiter à la montagne, dans les Alpes, si possible. Mais ça aurait pu être dans la cordillère des Andes, pourquoi pas. Mais enfin, dans un pays francophone. Donc, le Valais est un canton francophone. Je suis à 1000 mètres, dans un petit village de 200 âmes, qui fait partie d'une commune un peu plus grande, bien sûr. Et c'est toujours été un rêve pour moi d'habiter dans ce coin du monde. Alors, j'ai réalisé un rêve. Après, la nature, oui, c'est vrai que la nature, par rapport aux, disons, aux qualités qu'il faut pour monter sur scène, donc des qualités un peu plus, je dirais, il faut quand même être assez fier, avoir un peu d'ego pour monter sur scène, puis s'installer devant des milliers de gens et puis se trouver un peu intéressant. Alors que dans l'écriture, au contraire, il y a un travail qui vient plus de l'intérieur et donc ces montagnes énormes là nous font trouver notre humilité, même si elle est enfouie au fond de soi, très enfouie sous l'ego.
Dans cet album, il y a un titre qui s'appelle Chat. Vous êtes un peu comme un chat. Vous allez à tâtons, comme ça vous retombez sur vos pattes tout le temps. Et vous avez cette douceur, cette indépendance, cette solitude, cette affection peut-être?
Oui, je crois que j'ai beaucoup de chance, vous l'avez raison de le dire, et je le dirais même une ou deux ou trois fois, car effectivement j'ai pris pas mal de risques dans ma vie et je suis à chaque fois retombée sur mes pattes. Que ce soit des risques physiques, par exemple de traverser toute l'Afrique en monomoteur, ou des risques professionnels en enregistrant par exemple sur cet album un spoiler de 7 minutes avec une chanteuse qui arrive à 1 minute 30, ce qui est impossible de nos jours. Donc ce sont des risques qu'on prend, mais quand ça fonctionne, la récompense est là, et le chat est très content quand il trouve son petit pot de lait là.
Oui, c'est vrai.
Au bout de sa longue journey.
Le chat, c'est la douceur. Et puis, il y a un peu la rébellion. J'en parlais tout à l'heure, Diane Tell, avec Evolène, où vous vous présentez comme mi-ange, mi-démon, quelque part. Et vous avez des coups de gueule, vous le dites dans cette chanson.
Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est plus de la folie, en fait. C'est qu'à un moment donné, on perd les pédales, quoi. On devient un peu fou pour des raisons, des fois. Personnel ou parfois c'est plutôt universel. On en a marre, on a envie de claquer une porte, on a envie de tuer le chien, on a envie de balancer.
Oui, c'est
la
ça,
bagnole.
Vous dites je tue le chien.
Voilà, mais aucun animal n'a été blessé durant l'enregistrement de cet album, je dois le dire. Mais on a envie de planter la voiture dans un mur, on a envie de taper dans, tu sais, un peu. Et voilà, moi c'est ça, c'est une chanson un peu sur ce pétage de plomb, on va dire.
Et vous dites qu'avant, votre voix était un instrument qui servait la mélodie. Aujourd'hui, vous chantez les mots. Et vous le notez ça d'ailleurs, chez les artistes contemporains. Le style, les textes sont de plus en plus importants. Et beaucoup d'artistes aujourd'hui percent grâce à leurs textes.
Bah heureusement, parce que heureusement, oui, on s'intéresse un peu plus aux mots, moi-même la première. Mais le public, par contre, lorsqu'il écoute beaucoup de musique en anglais, fait pas très attention au texte. Il suffit de traduire le texte de la chanson moyenne qui passe en radio et on se rend compte que c'est pas ce qui compte le plus. Chez les anglo-saxons, mais il y a quand même des très grands auteurs, n'est-ce pas, Dylan, Leonard Cohen, Joni Mitchell et bien d'autres. Donc moi, mon rêve, c'est quand même de réaliser ces chansons où le texte est beau. Le texte est beau, mais le texte sonne aussi. Donc je voudrais pas compromettre l'un pour favoriser l'autre.
Et vous n'avez jamais fait, même lors de votre immense succès dans les années 80, comment vous l'avez appréhendé, ce succès-là, dans les années 80? Comment vous l'avez conservé, je dirais, Diane Tell? Vous en êtes où avec ça?
Bah, d'abord, ça a commencé par un échec, puisque j'ai écrit cette chanson pour participer au Festival international de la chanson de Spa. J'ai été éliminée au premier tour.
Oui.
Donc, ça a été un moment un peu humiliant pour la jeune fille de 19 ans que j'étais. Donc, mais ceci, j'étais un homme. Finalement, est sorti au Canada, a eu beaucoup, beaucoup de succès. Après, en France, avec les radios libres. Et la chanson a été portée par... Maintenant, on est à la... troisième génération pratiquement, si on prend des générations de 10-15 ans, on va dire 12-15 ans. Donc c'est une chanson maintenant qui vit sa vie Elle me porte maintenant beaucoup. Elle me porte déjà financièrement, faut être honnête. Comme j'ai eu l'instinct de conserver les droits d'auteur et les droits d'édition et phonogramme. Donc cette chanson, évidemment, m'appartient et c'est un bonheur absolu. Puis elle me porte aussi auprès du public, puisqu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais qui ne savent pas que je suis la petite chose qui est derrière. Qui est derrière, voilà.
C'est vrai que tout le monde l'aime, cette chanson. Même les jeunes, aujourd'hui, en parlent. Vous pourriez en faire un couplet, là, à la guitare ? Vous pourriez faire ce cadeau ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui, oui. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde. Où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis femme, et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là, non. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires, oui, d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé. Oh oui, un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, si j'étais un homme, je serais romantique. Oh, oh, oh.
Merci beaucoup, Diane Tell, dans la librairie francophone, ici à Montmartre, à Paris, en plein cœur de Paris, au Moulin de la Galette. Merci Diane, je suis très émue. Je vois dans vos yeux que vous l'êtes aussi un petit peu.
Ouais, bah, c'est sûr de chanter dans les lieux pareils et chanter pour vous en live, comme ça.
C'est adorable. Merci beaucoup, Diane Tell.
Merci à vous.
Merci. Votre nouvel album Haïku est disponible en CD et en version numérique sur les plateformes d'écoute et de téléchargement. À suivre, le prix Goncourt des lycéens et prix interallié Karine Thuil. Et un florilège des coups de gueule de nos libraires. Voici le groupe français Roseau avec le chanteur camerounais Blik Bassi. On change d'ambiance dans la librairie francophone.
Mm-hmm.
De retour à Montmartre avec le Studio 28 qui est juste devant nous, cinéma emblématique célébré par Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, entre autres. C'était Blic Bassi et Roseau avec Kaat. Aujourd'hui, pour la chronique des libraires, je vous propose un florilège de coups de gueule belges, suisses et québécois poussés dans cette émission depuis la rentrée. En Suisse, on retrouve Dominique Bressoud de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Un coup de gueule ou un coup de cœur cette semaine pour vous ?
Eh ben un coup de gueule. Allez,
allons-y.
Sur le prix du livre en Suisse. Parce que, vous avez remarqué, la Belgique adopte le prix unique du livre pour 2020. Mais bon sang, pourquoi il n'y a pas l'ombre d'une initiative ni même d'un débat en Suisse à ce sujet ? Moi, j'entends d'ici certains auditeurs helvètes qui vont enfourcher le cheval de bataille de la libre concurrence pour défendre les remises accordées par les supermarchés. Mmh. Mais en fait, pour paraphraser le décret émis par la Belgique, l'idée du prix unique du livre, c'est quand même d'être à l'avantage des lecteurs, en préservant la pluralité des canaux de vente pour une offre de livres diversifiée et qualitative.
C'est un vrai souci.
En fait, pour qu'on trouve encore des librairies indépendantes et puis aussi des libraires qui aiment leur métier et qui peuvent l'exercer.
Eh oui, les libraires indépendants sont en danger en Suisse depuis de nombreuses années avec cette histoire
depuis
du prix du
d'années.
Livre. On a toujours entendu ça depuis que l'émission existe. Déborah Damblon, un coup de gueule en Belgique.
Ben oui, voilà. Alors n'en dites pas plus, Emmanuel. Vous avez remarqué, comme il y a des tas de gens, des journalistes, des auteurs, des libraires, quand ils veulent être convaincants en parlant d'un livre, eh ben, ils le racontent jusqu'au bout, carrément. Comme s'ils passaient un examen. Alors moi, j'ai juste envie de leur dire, stop les gars, arrêtez. Alors, s'il vous plaît, j'ai juste envie qu'on demande à Pénac de rajouter un 11e droit à ces 10 droits du lecteur, celui de ne pas connaître la fin. S'il vous plaît, laissez-nous la surprise, quoi.
Jérémy Laniel, au Canada, un coup de gueule, je crois.
Oui, Emmanuel, hier encore, j'étais sur une terrasse et aujourd'hui c'est Noël. Bien sûr, on est dans les premières semaines de novembre et en librairie, les contes de Noël, les livres de Noël, les réécritures de Noël de tous les livres possibles, on s'enfarge déjà dedans. Moi, je crois que dans quelques années, même en littérature adulte, on va se mettre à faire des livres de Noël. Le Goncourt de Noël, tous les Pères Noël n'habitent pas le monde de la même façon. La Panthère des Fêtes de Tesson, ça va être complètement ridicule. À un moment, on a assez de livres dans la rentrée. On a plein de bons conseils pour vous. Cessez avec les livres de Noël.
Les coups de gueule des libraires, c'est à retrouver chaque semaine dans la librairie francophone. Pour cette toute dernière partie d'émission, retour sur le roman de Karine Thuil, qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens et le prix Interallié, un doublé qui la place parmi les livres les plus en vue en librairie.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Karine Thuil est dans la librairie pour son livre Les choses humaines, paru aux éditions Gallimard. Quelle est la différence entre un viol et une relation sexuelle non consentie, selon vous, Karine ?
Un viol, c'est une relation sexuelle non consentie, donc il n'y a pas de différence.
Il y a un petit doute dans votre livre.
Alors, il n'y a pas un doute. Ce que j'essaye de raconter dans ce livre, c'est la rencontre d'abord entre un jeune garçon et une jeune femme. Elle l'accuse de viol, lui est un fils d'un couple de pouvoir, elle vient d'un milieu beaucoup plus simple.
Ouais.
Elle l'accuse de viol et lui dit qu'elle était consentante. Et c'est vrai que pour raconter cette histoire, pour écrire ce livre, j'ai assisté à de très nombreux procès aux assises de Paris. Et finalement, la différence, c'est ce qu'on appelle le déni et la sidération. C'est-à-dire que vous avez une victime qui a très peur, qui est sidérée, donc qui n'a pas la force de repousser son agresseur, et un homme qui est dans le déni de ce qu'il a fait.
Alors, on est dans un monde privilégié dans ce livre, Karine Thuil, avec le monde des médias, des journalistes connus, un soupçon de politique, la petite bourgeoisie aussi, et ce jeune homme de 21 ans, Alexandre, fils de Jean Farel, célèbre intervieweur politique. C'est lui qui, un jour, et très tard d'ailleurs dans le roman, page 132, va commettre un acte ambigu avec la fille du compagnon de sa mère. Et la situation n'est pas claire, comme la plupart de ces situations qui dérapent entre jeunes au cours d'une soirée, arrosées et chargées de substances, c'est jamais clair.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour moi, en l'écrivant, la situation est claire. Mais dans les procès, on voit ces situations, ce qu'on appelle la zone grise du consentement, qui en fait, selon moi, n'existe pas. Parce que c'est vrai que c'est parole contre parole, c'est chacun a sa version des faits. Mais encore une fois, moi je suis convaincue qu'il y a chez celui qui commet l'acte un déni total de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire, de l'acte qui est en train de se commettre, pour lui n'est jamais un viol. Et pour elle, par la prostration, par la sidération, parce qu'elle est statufiée par la peur, elle n'a pas les moyens de s'opposer à lui. Et effectivement, au procès, c'est parole contre parole, c'est chacun qui va défendre sa vision des choses, c'est l'avocat de la défense qui va prendre parti pour l'accuser, c'est l'avocat des parties civiles qui va rappeler
ça,
le courage.
Oui, mais donc c'est la réalité. Vous auriez pu être beaucoup plus concrète dans l'acte.
Ah bien sûr, j'aurais pu choisir le cas, et j'en ai vu au procès d'assises, c'est-à-dire le cas d'un viol avec un couteau, d'un viol dans un parking. Moi j'ai choisi d'aborder
l'ambiguïté,
ce qu'on appelle la zone grise du consentement. Mais qui pour moi fait partie de la culture du viol, et c'est justement parce que c'est complexe et parce que c'est ambigu que c'est intéressant à raconter dans
Jean-Michel Ribes.
Oui, il y a une question que je me pose quand vous dites qu'il y a un déni. Je comprends. Est-ce que, comme ça, l'espèce d'emballement, d'exaspération, du désir, tout d'un coup, de celui qui va commettre un acte répréhensible, ne l'aveugle pas et ne justifie pas son acte ? Le désir n'est pas quelque chose, finalement, qui peut
c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va passer en force. Alors, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle, et j'en parle d'ailleurs dans le roman, le viol opportuniste. C'est-à-dire que cet homme va se trouver, ce jeune homme, dans cette situation, ils sont dans un local, ils ont bu, ils ont fumé, ils flirtent un peu, et puis il se dit, ben finalement je passe en force, donc il l'oblige à lui faire une fellation, et puis après ça, il va la violer, et pour lui, ce qui est en train de se commettre n'est pas vraiment un viol, parce qu'elle l'a suivi.
On va voir du côté des libraires ce qu'ils ont pensé de votre roman, Karine Thuil, avec le Canada, la Belgique et la Suisse, et on commence avec Josiane Letourneau au Canada.
Oh là là, la facilité déconcertante avec laquelle on entre dans ce roman et la manière directe et lucide avec laquelle vous dépeignez les parcours et la nature de vos personnages, il y a une force et un aplomb rare dans votre écriture, Karine Thuil. Tout au long de ma lecture, j'ai en vain attendu un moment de faiblesse qui n'est jamais venu. C'est un roman si intelligemment construit, brillant. Bon, qui a complètement détruit mes dernières illusions sur l'amour et le romantisme en littérature, mais c'est si habilement fait que je peux pas vous en vouloir.
Merci infiniment. Moi, ma vision aussi est complètement...
Alors, c'est vrai. Franchement, Karine, vous laissez peu d'espoir à la place de l'amour dans les relations humaines. Notamment dans le monde médiatique et politique, on ne peut avoir confiance en personne. Vous écrivez même, les relations humaines semblent vouées à la trahison et à l'échec.
Oui, c'est une vision très pessimiste des rapports amoureux et de la nature humaine. Mais c'est la mienne. Enfin, c'est celle qui transparaît dans mes romans. Est-ce qu'on doit se justifier et commenter ?
Et si on essayait, Karine, de faire confiance ? Si on arrêtait comme ça de peindre une société comme ça ? Dans les livres, dans les médias, partout on dénigre, partout on doute. Si on essayait autre chose ?
Mais ils essayent, mes personnages. Il faut aussi raconter
mais vous,
le contexte.
En tant qu'auteur.
C'est-à-dire que mon personnage Claire, la mère de l'accusé, quand le livre s'ouvre, elle quitte tout pour vivre une très grande passion
vous,
amoureuse
en tant qu'auteur.
Et sexuelle. Et je considère qu'un livre n'a pas à être moral ou amoral. Ouais. Un livre existe, il est porté par un souffle, par un univers. Il n'y a pas de message. Et je crois que même les intentions de l'écrivain ne doivent pas apparaître dans son roman.
D'accord, c'est votre droit. La Belgique, ça vous va ?
Très bien, j'adore la Belgique.
Déborah Damblon, c'est à vous.
Eh bien, votre roman, Madame Thuil, c'est tout ce que j'aime. C'est un vrai sujet, une vraie histoire qu'on a envie de découvrir et puis qui va nous balancer d'une émotion à une autre. Ce sont des personnages crédibles. Bref, c'est un très bon moment de lecture passionnante au premier degré. Et puis, il y a les degrés suivants. Quand au coin d'une page, quand au détour d'une phrase, on se prend certaines émotions en travers de la figure et qu'on comprend que les comportements de ces personnages qu'on trouvait d'abord tellement éloignés, ben, le sont peut-être pas tant que ça. Et c'est terrible.
Claire Renaud, en Suisse, êtes-vous d'accord avec votre collègue ?
Vous avez commencé par me surprendre, et ça déjà c'est super. Après, on est embarqué dès les premières pages dans les tréfonds de l'ambiguïté humaine. Et vous le faites de manière quasi chirurgicale, et ça fonctionne. Vos personnages, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça n'est pas la question. En fait, on les comprend. Et c'est ça qu'il y a de très perturbant. Et en fait, je vous dis chapeau, votre livre est un véritable tour de force.
Merci
infiniment. Vous avez séduit tous nos libraires.
Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est toujours un moment, la publication, c'est toujours un moment très difficile, parce que surtout sur un sujet comme celui-là, il va pouvoir y avoir des échanges, du débat, de la contradiction, et savoir que, voilà, engendrer l'adhésion de vous.
Alors
de
vos livres, j'en suis ravie. C'était éprouvant, j'en doute pas, Karine Duhil, parce que vous abordez de nombreux sujets. Tout ce qui nous a marqué ces dernières années sont là. Le terrorisme, l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo, la condition des Juifs en France depuis l'attentat de l'école à Toulouse, les médias impitoyables, les travers de la politique, tout est là. C'est quoi la morale de tout cela ? Votre conclusion, Karine Duhil ?
D'abord, mes personnages vivent dans leur époque, ils sont profondément ancrés dans leur époque, et c'est une époque assez brutale, la société est fracturée, et je crois qu'à la fois on perçoit, j'espère dans le roman, les fractures de la société, et comment ces fractures ont des conséquences sur la vie intime des êtres qui eux-mêmes sont confrontés à leur propre
figure. Et votre conclusion alors ? Sur ce monde-là.
C'est un monde assez désenchanté. Je parle aussi dans le livre des réseaux sociaux, oui, la façon dont les gens se mettent en scène aujourd'hui, la transformation que ça implique dans les relations humaines, dans les relations amoureuses aussi.
Donc vous êtes désenchanté, vous ?
Je suis un peu désenchantée, mais je ne voudrais pas plomber l'ambiance.
Vous l'avez déjà plombé, il y a un libraire qui ne croit plus en l'amour.
on va trouver des solutions.
Bon, merci beaucoup Karine Thuil.
Merci à vous.
Merci d'être venue dans la librairie francophone Les Choses Humaines. Votre roman est paru chez Gallimard. À bientôt. Avant de conclure, voici un extrait du nouvel album du groupe réunionnais L'Indigo, album qui sortira en février. C'est en avant-première dans la librairie francophone. Malagasi ande fanan Malagasi abalatra Malagasi atimo Malagasi atinanan Malagasi ande fanan Heri heri Oyare Sanatane Réunionnais L'Indigo avec Malagasy à nous en avant-première d'un nouvel album à paraître en février 2020.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal, avec Charles Pélabon au mixage. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc avec Philippe Delerme, Jean-Philippe Toussaint, Enki Bilal en signature avec ses fans au Canada, entre autres. Bonne semaine, bon week-end à vous.